VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du vendredi 7 janvier 2022. En direct de Washington, Idrissa Seloudia
et Michel Joseph.
Nous commençons par les titres.
Au Bénin, deux soldats ont été tués dans l'explosion d'une mine dans le nord-ouest, près de la frontière avec le Burkina Faso.
Au Soudan, trois manifestants ont été tués hier dans de nouveaux rassemblements contre le pouvoir militaire.
En Tanzanie, le parti au pouvoir divisé, le président du Parlement démissionne après des critiques qu'il a formulées sur la dette du pays.
La Chine ne piège pas l'Afrique dans la dette, affirme au Kenya son ministre des Affaires étrangères Wang Yi en tournée africaine.
Le président Joe Biden plaide avec une gravité inédite pour la démocratie. Son prédécesseur Donald Trump répond avec fureur lors du premier anniversaire de l'assaut du Capitole par des partisans de ce dernier.
Ne manquez pas notre page sport avec Yacouba Ouédraogo sur la CAN dont le coup d'envoi est prévu ce dimanche 9 janvier au Cameroun. Pour l'instant, le journal.
Au Bénin, selon deux sources militaires, au moins deux soldats béninois ont été tués et d'autres blessés, dont un dans un état critique après l'explosion ce jeudi d'une mine au passage de leur véhicule dans le nord-ouest du pays, près de la frontière avec le Burkina Faso. L'armée a été dans le nord, la cible début décembre de deux attaques djihadistes qualifiées d'ignobles par le président Patrice Talon. Les premières reconnues officiellement par les autorités. Des renforts militaires avaient été envoyés sur place.
Jeudi, un véhicule militaire a déclenché un engin explosif dans le département de l'Atakora, près du parc de la Penjari, où deux touristes français avaient été enlevés en 2019 par des bandits. Selon un officier joint par téléphone, il ne s'agit pas d'une attaque, mais d'un véhicule militaire qui a sauté sur une mine artisanale alors qu'il allait mener une opération. Il y a 8 jours, le président Talon avait assuré devant le Parlement que le Bénin allait renforcer son dispositif militaire pour tenter de mettre fin aux incursions de djihadistes venus du Niger et du Burkina Faso voisin.
Au Soudan, trois manifestants ont été tués par balle ce jeudi dans la capitale Khartoum et sa banlieue. Des milliers de Soudanais sont à nouveau sortis dans tout le pays pour dénoncer le pouvoir militaire. Le point avec Ginny Kapumbuvila.
Deux d'entre eux ont été tués à Omdurman, la ville jumelle à Khartoum, dont l'un atteint d'une balle à la tête, l'autre au bassin, et un troisième a été tué dans la capitale, touché à la poitrine, selon un comité de médecins pro-démocratie. Ce comité fait état de plus de 300 blessés par des tirs à balles réelles ou en caoutchouc et par des grenades lacrymogènes. À Khartoum, les manifestants avançaient vers le palais présidentiel et le QG de l'armée, tandis que les forces de l'ordre tiraient pour tenter de les disperser. Depuis le coup d'État, au moins 60 personnes ont été tuées. Les militaires sont seuls aux commandes depuis la démission dimanche du Premier ministre Abdallah Hamdok, visage civil de la transition. Les États-Unis, l'Union européenne, le Royaume-Uni et la Norvège ont exhorté mardi les militaires à ne pas nommer de manière unilatérale un nouveau chef du gouvernement. Mercredi, le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken a appelé les forces soudanaises à cesser l'utilisation de la force létale contre les manifestants.
En Tanzanie, le président du Parlement a démissionné hier, marquant une nouvelle étape dans les divisions qui secouent le parti au pouvoir dans ce pays d'Afrique de l'Est. Abdulrahman Dia.
Dans un communiqué, Job Ndugai a indiqué avoir écrit au secrétaire général du parti CCM au pouvoir pour informer de sa démission de son poste qu'il occupait depuis 2015. Il dit avoir pris cette décision dans l'intérêt de son gouvernement et de son parti. Job Ndugai avait suscité la colère de la chef de l'État, Samia Suluhu Hassan, également présidente du parti CCM, en critiquant fin décembre les emprunts excessifs du pays à l'étranger. « Nous avons eu recours à l'emprunt chaque jour. Viendra un jour où ce pays sera bradé », avait-il dit. Ces propos ont déclenché un débat sur la dette au sein de la majorité, mais beaucoup parmi les soutiens de Mme Hassan l'ont sévèrement attaqué pour avoir critiqué la présidente. Des divisions au sein du parti CCM, au pouvoir depuis l'indépendance en 1961, ont été rapportées depuis que Mme Hassan a pris ses fonctions après le décès soudain en mars du président John Magufuli, dont elle elle était la vice-présidente.
Les États-Unis annoncent la nomination du diplomate chevronné David Satterfield comme nouvel émissaire pour la Corne de l'Afrique en remplacement de Jeffrey Feltman qui quitte ses fonctions sur fond d'impasse dans le conflit éthiopien et la crise soudanaise. Jacques Aristide.
David Satterfield a eu notamment à gérer ces dernières années les relations tendues avec la Turquie en tant qu'ambassadeur à Ankara. Il prendra ses fonctions dans les prochains jours, indique le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, dans un communiqué publié hier. Ses décennies d'expérience diplomatique et de travail aux prises avec les conflits les plus complexes de la planète seront précieux dans nos efforts persistants pour promouvoir une Corne de l'Afrique prospère et pacifique, ajoute-t-il. Jeffrey Feltman, lui, va terminer sa mission après un dernier déplacement à Addis Abeba qui a débuté hier pour tenter d'arracher des pourparlers de paix entre le gouvernement et les rebelles tigréens. Anthony Blinken assure que l'émissaire nommé début 2021 avait toujours eu l'intention de partir après moins d'un an. Il va demeurer conseiller auprès du département d'État. Jeffrey Feltman a été très investi sur les fronts soudanais et éthiopiens. Le Soudan a connu un putsch militaire en octobre dernier. Son départ intervient alors que le premier ministre civil Abdallah Hamdok vient de démissionner. Ses efforts pour pousser au dialogue les belligérants en Éthiopie sont également pour l'instant restés sans lendemain. Et la Chine aussi vient d'annoncer la nomination de son émissaire pour la Corne de l'Afrique.
Le ministre chinois des Affaires étrangères soutient que Pékin ne piège pas l'Afrique dans la dette. Wang Yi l'a dit hier au Kenya à l'occasion d'une tournée africaine durant laquelle ce dernier doit notamment visiter divers projets d'infrastructures financés par son pays. Il s'agit d'un discours qui a été créé par ceux qui ne veulent pas voir le développement de l'Afrique, a-t-il déclaré à des journalistes. S'il y a un piège, c'est celui de la pauvreté et du sous-développement.
La visite de M. Wang suit de peu celle qu'a effectuée en novembre sur le continent le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, un voyage en partie destiné, dit-on, à contrer l'influence grandissante de la Chine en Afrique. À Washington, le porte-parole de la diplomatie américaine Ned Price a d'ailleurs tenu à vanter les partenariats offerts par les Américains aux pays africains sur la base des opportunités mutuelles, du respect mutuel, contrastant selon lui avec les projets chinois.
Pékin est le premier partenaire commercial du continent africain avec des échanges directs de plus de 200 milliards de dollars en 2019 selon les chiffres officiels chinois. Après le Kenya, M. Wang doit se rendre dans l'archipel des Comores.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Un an après l'assaut du Capitole, le président américain Joe Biden a livré hier un discours d'une gravité et d'une virulence inédite. Il a affirmé qu'il ne laisserait personne mettre le couteau sous la gorge de la démocratie américaine et surtout pas son prédécesseur, le républicain Donald Trump, avec ce que le démocrate Biden a appelé son tissu de mensonges. Le point avec Nani Talani.
Le président démocrate s'est exprimé depuis l'imposant hall des statues du Congrès américain sous haute protection policière. Joe Biden a accusé son prédécesseur d'avoir tenté d'empêcher un transfert pacifique du pouvoir lors de l'insurrection armée du 6 janvier 2021. Des milliers de personnes avaient pris d'assaut le Congrès américain pour tenter d'empêcher la certification de l'élection. Il a soutenu que Donald Trump a créé et répandu un tissu de mensonges à propos de l'élection de 2020 car il préfère le pouvoir au principe et parce que son ego blessé lui importe plus que la démocratie. Mais je ne laisserai personne mettre le couteau sous la gorge de la démocratie américaine, a-t-il ajouté. Joe Biden a promis qu'il n'acceptera pas que la violence politique devienne la norme. Dans un communiqué, Donald Trump a répondu que le discours de Joe Biden, dont la cote de confiance est très basse, était du théâtre politique destiné à détourner l'attention de ses échecs. Il a qualifié une nouvelle fois la dernière élection de truquée. Mitch McConnell, le leader républicain du Sénat, qui n'était pas présent au Congrès, a déclaré que les démocrates veulent exploiter à des fins politiques ce qui s'est passé il y a un an au Congrès américain.
La Cour suprême des États-Unis examine ce vendredi en urgence l'obligation de se vacciner contre le COVID-19 ou de se soumettre à un dépistage hebdomadaire que le président Joe Biden veut imposer au plus vite à des millions de salariés récalcitrants.
Deux journalistes haïtiens, Wilgens Louissant et Amadi John Wesley, ont été assassinés ce jeudi par un gang en périphérie de la capitale Port-au-Prince. Nouvelle illustration du chaos sécuritaire dans lequel est plongé Haïti, englué dans une crise profonde 6 mois après l'assassinat du président Jovenel Moïse. Haïti est depuis des mois sous la coupe réglée de gangs, dont l'emprise s'est largement étendue au-delà des quartiers défavorisés de Port-au-Prince.
Et maintenant, comme promis, Yacouba Ouédraogo et notre page sport.
Bonjour à tous. Le jeune footballeur international tunisien Hannibal Mejri, l'un des principaux joueurs des Aigles de Carthage, a été testé positif au COVID-19 hier. La Fédération tunisienne de football précise que le jeune joueur de 18 ans rejoindra l'équipe tunisienne au Cameroun dès qu'il aura terminé sa période d'isolement. Mejri manquera ainsi le début de la 33e CAN qui se déroulera du 9 janvier au 6 février au Cameroun après un report en 2021 pour cause de COVID. Deux joueurs de l'équipe gabonaise, Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina, ont aussi été testés positifs hier au COVID-19, a annoncé leur sélectionneur Patrice Neveu, précisant que les joueurs n'ont aucun symptôme. Les Panthères du Gabon doivent affronter les Comores le lundi 10 janvier. Les coéquipiers d'Aubameyang ont été battus dimanche lors de leur stage de préparation à Dubaï par le Burkina Faso 3-0. La CAN, vous le savez, se tiendra après des tentatives de report qui ont finalement échoué. La plus grande fête sportive africaine aura bel et bien lieu du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun. Depuis Libreville au Gabon, notre consultant Jules Valentin Ngoué revient sur toutes ces bisbilles qui ont prévalu avant la CAN.
En confiant logiquement au Cameroun l'organisation de la phase finale de la prochaine CAN après le Gabon en 2017, rien ne laissait penser que cette désignation unanime allait provoquer un feuilleton rocambolesque long à arrêter. Les tourments que le Cameroun a connus depuis lors sont véritablement immérités. Lorsqu'on se rappelle sa contribution incomparable pour la reconnaissance du football africain à l'échelle mondiale, que ce soit au niveau de sa gestion ou pour les résultats obtenus. Nous rappellerons sur le vif que ce sont deux anciennes gloires camerounaises, Eugène Joléa et Joseph-Antoine Bell, qui posèrent l'un les bases à venir d'une professionnalisation du football subsaharien et l'autre celle de l'amélioration des conditions salariales des joueurs africains opérant en Europe à l'heure où l'arrêt Bosman leur ouvrait des horizons nouveaux. On se souvient aussi du long mandat largement positif à la tête de la CAF du président Issa Hayatou, au point d'être honoré comme président intérimaire de la FIFA après le FIFA Gate. Lui, l'Africain, a remis le navire à flot. Que dire encore de l'épopée glorieuse de Roger Milan et de ses Lions lors du Mondial italien de 1990, celle-ci obligea la FIFA à redessiner l'ordre mondial du football au profit de l'Afrique. Alors comment comprendre que l'accouchement d'une Coupe des Nations au Cameroun ait pu être si douloureux? Sans vouloir rentrer dans d'éventuelles thèses polémiques ou complotistes difficiles à prouver, nous pouvons affirmer que la problématique réelle réside dans la convergence de défis nouveaux. Il y a d'abord le défi structurel, né du passage à 24 participants, qui a imposé des infrastructures à ce niveau, ainsi qu'une capacité d'organisation hors pair. Au vu du plateau technique présenté et de la répétition du champ, ce défi a été relevé. Il y a ensuite le double défi conjoncturel face à la sécurité et également à la conjoncture sanitaire du moment, avec la persistance de la pandémie de la COVID. En fait, ces deux défis concernent toutes les grandes compétitions actuelles et il faut faire avec. Alors, il ne nous reste donc plus qu'à croiser les doigts, car du succès du Cameroun dépend le sort de toute l'Afrique profonde. En effet, en cas d'échec, l'Afrique du Sud et l'Afrique du Nord auront encore pour longtemps le monopole de l'organisation des rencontres internationales de très haut niveau. Et ce n'est pas notre souhait. Vivement que la fête commence. À dimanche.
Merci Jules. C'est tout pour cette page spéciale du jour consacrée à la Coupe d'Afrique des Nations.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoulia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. C'est ce dimanche donc, 9 janvier, que sera donné le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations de football qu'abrite le Cameroun. Cette année, le Covid-19 s'est invité dans la compétition avec son lot de contraintes sanitaires. Du coup, l'on n'observe pas un très grand enthousiasme des supporters qui souhaitent accéder au stade, nous dit de Yaoundé notre correspondant Emmanuel Jules Tap.
Le protocole sanitaire en raison de la pandémie du coronavirus va s'imposer à toutes les délégations officielles et aux spectateurs durant la Coupe d'Afrique des Nations de football. Le ministre de la Santé publique, Malachi Manaouda, se montre ferme à ce sujet.
L'accès au stade, aux fan zones, aux hôtels de joueurs et délégations seront donc conditionnés à la preuve d'un pass sanitaire valide. Ce dispositif s'appuie sur plus de 2500 personnels qui vont tester, contrôler autant de spectateurs qu'il le faut. Les équipes du ministère de la Santé publique, déployées à toutes les portes d'entrée de notre pays, seront chargées d'effectuer les contrôles d'authenticité des tests PCR négatifs exigés au débarquement des passagers et de faire systématiquement des tests rapides antigéniques additionnels à tout le monde.
Des postes de vaccination et de tests au Covid-19 ont été multipliés sur les 6 sites du tournoi. Chaque spectateur doit présenter un pass sanitaire imprimé avec un code QR. La CAF et le comité local d'organisation de la CAN ont décidé mardi dernier de plafonner entre 60 et 80% la capacité des stades. Mais cette jauge ne motive toujours pas les supporters à se faire vacciner afin de pouvoir suivre les matchs au stade.
Il faudrait qu'on nous explique encore pourquoi on se vaccine, parce qu'il y a plein de Camerounais qui refusent de le faire.
On ne se fait pas vacciner parce qu'on a entendu que l'autre s'est fait vacciner. Il faut déjà savoir ce que c'est que le vaccin et la maladie, donc je prends tout mon temps.
Les personnes qui n'iront pas au stade peuvent vivre la CAN à partir des fan zones de la CAF. Deux ont été créés à Yaoundé. Emmanuel Ndjawa, président de la commission culturelle et manifestation pour le site de Yaoundé Olembe.
L'exigence du pass sanitaire se fera avant l'entrée sur le site, c'est-à-dire un carnet de vaccination, également un test négatif. Pour cela, on a installé deux postes de testing tout autour du site. Une fois que c'est fait, la capacité d'accueil elle est assez grande. Nous avons pris disposition pour accueillir le maximum de personnes.
La plupart des équipes ont rejoint leur base et les pronostics vont bon train côté public sportif au sujet des favoris de la compétition.
Il y a des pays favoris, il y a l'Algérie, il y a le Maroc. Voilà, on ne sait pas. Bon, il n'y a pas de petites nations actuellement.
Je sais que le Cameroun est le plus grand favori de cette compétition.
Il y a l'Égypte, il y a l'Algérie, il y a le Sénégal du Grand Stadio Mané avec Edouard Mendy. Et il y a aussi la Tunisie.
Après 4 reports, la vente des billets d'accès au stade a finalement débuté hier. 40 000 supporters pourraient assister au match d'ouverture qui va mettre aux prises dimanche le pays hôte au Burkina Faso. Yaoundé, Emmanuel Jumtap, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Congo-Brazzaville, la police a remis hier 7 tortionnaires au procureur de la République qui les a aussitôt écroués. Une vidéo montrant ces personnes en train de torturer à coups de marteau un jeune bandit présumé, Bébé Noir, a choqué la population. Les organisations de défense des droits de l'homme ont appelé la justice à travailler selon la rigueur de la loi, nous dit Arsène Séverin, notre correspondant à Brazzaville.
Au terme des dispositions de l'article 55 du Code de procédure pénale, ces présumés auteurs sont poursuivis devant mon parquet selon la procédure de crime flagrant pour les faits d'association de malfaiteurs et de coups et blessures volontaires. Aussi, après leur interrogatoire et sur l'instruction du procureur de la République, tous ces malfaiteurs sont mis aux arrêts dès cet instant.
La voix qu'on entend à peine est celle du procureur de la République près du tribunal de grande instance de Brazzaville, André Ngakala Oko, présentant les 7 tortionnaires à la presse. On y compte 4 policiers, dont 2 adjudants. Ils se sont servis de marteaux pour bousiller les pieds des jeunes présumés bandits bébés noirs. Une vidéo sur les réseaux sociaux montrant cette scène horrible a choqué beaucoup de Brazzavillois. Les 7 tortionnaires ont donc été rattrapés par la police qui les a identifiés, certains comme chefs de commissariat, d'autres comme de simples civils. Ils sont tous arrêtés et inculpés pour association de malfaiteurs et coups et blessures volontaires. Tout en saluant les efforts de la police, Trésor Ndila Kende, directeur exécutif du Centre d'action pour le développement CAD, appelle à la requalification des faits et à l'application stricte de la loi.
L'arrestation de ces tortionnaires est un pas important vers la justice pour les victimes et les parents des victimes. Toutefois, les motifs retenus contre ces tortionnaires nous révoltent. Nous espérons une requalification des faits au regard de la gravité de la situation. On ne peut pas parler des coups et blessures volontaires. C'est minimiser la gravité des faits. La justice congolaise est face à ses responsabilités. Les familles que nous avons rencontrées estiment que leurs enfants ne méritaient pas un tel traitement. Nous allons ensemble, avec ces familles, se constituer partie civile dans la procédure en cours.
Pour Georges Nguila, le directeur exécutif de l'Observatoire congolais des droits de l'homme OCDH, le mal est plus profond. La police brille régulièrement par ce genre de bavure. Il suggère une grande réflexion sur le comportement des policiers.
Ce n'est pas un bébé noir, c'est quelqu'un qu'on est allé chercher chez lui, qu'on a emmené dans un premier commissariat et puis dans un deuxième, puis troisièmement au lieu de torture. Donc nous, ce que nous voulons, c'est que plutôt que la direction générale, que le parquet, que le ministère de la Justice se réunisse et qu'ils essaient de voir ce qui ne va pas exactement, parce que ce n'est pas un fait isolé, mais c'est plutôt des cas à répétition qui revoient leur stratégie opérationnelle. Comme le dossier est déjà dans les mains du parquet, bon, ils vont diligenter, oui, mais il faudrait qu'on prévienne qu'il n'y ait plus d'autres actes pareils.
Selon les témoignages recueillis dans l'anonymat par VOA Afrique, plusieurs chefs des gangs sont enterrés dans leur maison, genoux et chevilles brisés, et ne peuvent se rendre à l'hôpital pour des soins, redoutant une exécution sommaire. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Dans l'est de l'autre Congo, la République démocratique du Congo, des centaines de miliciens démobilisés de différents groupes armés cantonnés dans le camp de Mubambiro, à une 20aine de kilomètres de la ville de Goma, déplorent leurs conditions de vie. Ces miliciens qui sont rendus depuis quelques années ont d'ailleurs manifesté leur colère dimanche dernier en barricadant la route Goma-Sake avant d'être dispersés par l'armée congolaise. La répression a fait un mort. Reportage de notre correspondant à Goma, Zanem Neti Zaidi.
À Mubambiro, à plus de 20 km de la ville de Goma, sont logés les ex-rebelles démobilisés des différents groupes armés de la région. Ils ont déjà passé plusieurs années à atteindre leur insertion ou leur intégration. Ces processus tardent à venir alors qu'ils vivent des situations qu'ils jugent inhumaines, caractérisées par le délabrement de leurs cases, le manque d'eau, des soins et de nourriture. Monsieur Kakule Musingi est un ancien rebelle de l'Union des Patriotes pour la Libération du Congo, un groupe rebelle opérant dans le Nord Kivu et dans la province d'Ituri.
Nous vivons ici dans de très mauvaises conditions. C'est le gouvernement qui nous a fait venir ici en nous promettant une meilleure formation pour rejoindre l'armée. Nous devrions aller à l'académie militaire de Kitona ou de Kamina. Je suis ici depuis 2019. Nous sommes fatigués, nous ne mangeons pas, nous tombons malades sans soins. Nous sommes devenus oisifs, nous ne sommes ni au service militaire ni dans la vie civile.
Les responsables du camp révèlent qu'ils ont déjà enregistré des dizaines de morts parmi les ex-rebelles. Ces morts sont enterrés même dans les camps. Kasilengi Akiza, un ex-rebelle, craint une augmentation du nombre de décès dans les jours à venir en raison du manque de la prise en charge. Il appelle les autorités à l'aide.
La plupart de nos collègues qui ont été enterrés ici sont morts de faim et de maladie. Je demande aux autorités de voir comment elles peuvent nous sortir d'ici pour que nous puissions suivre une formation militaire ou nous réintégrer dans la vie sociale.
La non-prise en charge de ces ex-rebelles pèse aussi sur les habitants environnants. Léopold Mouicha, président de la société civile de Kamuronza, dit avoir enregistré des cas d'extorsion et des vols perpétrés par ces ex-rebelles et plaide pour la délocalisation du camp.
Et j'aimerais à ce que aussi ces derniers puissent être délocalisés parce que ils ne sont pas vraiment en bonne relation avec la population. Il y a eu des casses, il y a eu des vols, il y a des extorsions, voire même des coups et blessures.
En octobre 2020, le président Félix Tshisekedi s'était rendu dans ces camps pour s'imprégner de leur situation. Il leur avait promis que leur situation serait vite résolue, mais ces anciens rebelles attendent toujours. Zanem Netizaidi à Moubambiro pour VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Goma sur 96.2 FM.
Depuis plus de deux semaines, les cas de contamination au Covid-19 ont considérablement augmenté en Côte d'Ivoire. La présence du variant Omicron est confirmée par les autorités sanitaires. Notre correspondante Aïcha Diarra.
Plusieurs Ivoiriens se plaignent de grippe, mais une grippe sévère à Wabakayeko traîne encore des séquelles.
J'ai commencé à avoir des démangeaisons au niveau de la gorge. J'ai essayé de prendre des calmants, des paracétamol, pensant que ça allait passer, mais vraiment ça n'a pas été facile. Ça m'a fatigué. Je faisais la fièvre, des frissons. J'étais vraiment fatigué. J'ai resté tout le temps couché. C'est beaucoup gênant. Ça va, il y a du mieux. C'est pas totalement parti, mais ça va.
La plupart des malades préfèrent rester à la maison pour une automédication plutôt que de se rendre à l'hôpital. Pour eux, c'est juste le petit corona. Diarra Cheikh Idriss.
Je n'avais jamais vécu ce genre de grippe-là. C'était quand même un peu terrible. Mais bon, je n'osais pas imaginer que ça pouvait être le corona que tout le monde connaît. Donc, je suis pas allé à l'hôpital, à vrai dire. Je me suis soigné moi-même à la maison. 10 jours comme ça. Mais il faut dire que les symptômes, vraiment, quand tu regardes bien, ça ressemble vraiment au petit corona. Au niveau de la santé, ça va. Mais il y a les écoulements nasaux qui continuent toujours, qui ne se sont pas encore arrêtés. Cette grippe-là, ces derniers jours, elle est vraiment répandue. Si c'est vraiment le variant Omicron qui est là, on ne sait pas. Mais on refuse de croire que c'est ça.
En ce qui concerne une épidémie de grippe en Côte d'Ivoire, le professeur Bénievro Joseph rassure. Il est le directeur de l'Institut national du jeune public.
Je voulais vraiment vous rassurer que jusqu'ici, contrairement à ce qui a été dit, qu'il y avait une épidémie de grippe, non, il n'en est pas encore question. En tout cas, des données que nous avons, selon les sites Sentinel que nous avons, qui nous permettent de faire des prélèvements régulièrement, nous ne sommes pas encore au taux de 8%, qui est le seuil de déclaration d'une épidémie de grippe.
En Côte d'Ivoire, les mesures barrières ne sont plus respectées. Le plus flagrant est le refus du port des masques, même dans les lieux publics. Pendant la dernière quinzaine du mois de décembre, nous avons assisté à une augmentation des cas de Covid avec un pic pour la seule journée du 31 décembre. Avec près de 3000 nouveaux cas. Pour Muriel Dosso, directrice de l'Institut Pasteur à Abidjan, jusqu'à la mi-décembre 2021, c'était essentiellement le variant Delta. Mais à partir du 15 décembre, il y a une émergence du variant Omicron.
Dans la période où nous sommes, il ne faut pas se cacher. Actuellement, quand quelqu'un tousse, quand il a mal à la gorge, quand il ne se sent pas bien, dans 95% des cas, c'est du Covid. Et le seul moyen pour le savoir, c'est d'aller faire le test. Si vous connaissez le résultat de votre test, vous allez vous protéger pour ne pas vous réinfecter avec une autre souche, mais aussi vous allez protéger votre entourage.
À ce jour, la Côte d'Ivoire compte plus de 75 000 cas confirmés avec 727 décès et seulement 7 millions de doses de vaccins totalement administrées à près de 2 millions de personnes. Aïcha Diarra, à Abidjan pour VOA Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h sur 24.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi au micro Idrissa Seludia et Michel Joseph, qui étaient également à la mise en onde. À la console, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.